Radio Okapi.
À la présentation du journal, Babel Pongo Massimango.
Bonsoir. Insécurité persistante à Beni. Les députés nationaux soupçonnent l'infiltration des ennemis au sein de l'armée. Au cours de la plénière d'hier, ils ont recommandé au ministre du secteur la mutation des généraux et des troupes basées dans l'est du pays. Aujourd'hui 5 décembre, la RDC célèbre la Journée nationale de l'arbre. Un Congolais en arbre pour préserver notre planète, c'est le thème retenu. Le ministre de l'Environnement appelle à cette occasion la population à planter des arbres et à transmettre cette culture aux enfants. Rose Tourmbéané, directrice du collectif des femmes journalistes de Boutembo, est notre invitée. Ce collectif se donne comme mission d'accompagner les guéris et toutes les autres personnes affectées par Ebola après l'épidémie. Situation sécuritaire préoccupante à Beni. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense apaisent la représentation nationale et sollicitent un appui sincère de tout Congolais afin de mettre définitivement fin à ce phénomène. Au cours de leurs auditions hier à l'Assemblée nationale, ces deux membres du gouvernement ont rassuré que les FARDC ont lancé depuis octobre dernier une offensive contre les groupes armés dont l'ADF et que les résultats sont très satisfaisants. Pour le ministre de la Défense, face à cette guerre asymétrique, les FARDC ont renforcé leur méthode et effectifs pour mettre fin à cette insécurité. Les grandes lignes de son intervention avec vous, Michel Kifindangoy.
Depuis octobre, les FARDC ont déjà éliminé 4 des 6 leaders ADF et récupéré plusieurs villages et sites, renseigne le ministre de la Défense, qui déplore tout de même des preuves des complicités congolaises retrouvées lors des opérations.
Sur le terrain, nous avons ramassé des éléments qui parlent, des téléphones avec des numéros qu'on peut appeler même si certains sont en train d'être fermés. C'est pourquoi je parle d'un appui sincère.
Quant à la collaboration avec la MONUSCO, Emengo Imukena explique qu'il est normal que cette force se retire progressivement.
Nous avons besoin d'un appui parce que si eux, ils ont un drone et que nous en avons besoin, ils peuvent nous appuyer. L'appui de la MONUSCO est connu de tout le monde. Il est tout à fait normal que l'appui touche progressivement à la fin.
Pour lui, les FARDC ont la capacité de gagner toute seule cette guerre.
Manipuler la population qui souffre déjà, c'est faire la part belle au jeu de l'ennemi. Aux élus de continuer de sensibiliser nos électeurs.
Emengo Imukena plaide aussi pour la révision à la hausse du budget de l'armée afin d'être moderne, dissuasive et capable de faire face à toute attaque.
Concernant cette insécurité persistante à Beni, les députés nationaux soupçonnent l'infiltration des ennemis au sein des FARDC et dénoncent le trafic illicite entretenu par certains généraux. Plus de 80 députés nationaux ont sollicité la parole hier au cours de cette plénière à huis clos et la plupart d'entre eux ont plaidé pour la mutation des généraux et troupes basées dans l'est du pays. En ce qui concerne la collaboration avec la MONUSCO, certains ont estimé qu'elle devrait quitter le pays alors que d'autres craignent que son départ précipité joue en faveur de l'ennemi. L'essentiel de leur recommandation avec Michel Kifindangoy.
Au cours de ce débat à huis clos, nous renseignent les députés, tous ont réaffirmé leur soutien aux FARDC. La plupart d'entre eux ont soupçonné une infiltration au sein de l'armée. Ils plaident donc pour l'envoi de nouvelles troupes et commandants non originaires de la région. Pour eux, les généraux comme Bouzamabe, Baouma, Mamadou Ndala qui ont eu du succès dans cette région n'y étaient pas originaires. Paul Moindo.
Ces égorgeurs, ils égorgent sans être attaqués. On doit sanctionner tout ce commandant. Il faut également enlever toutes ces troupes qui ont fait longtemps là-bas. Il faut qu'on envoie là-bas des personnes en dehors de tout doute soupçonnable par rapport au lien avec les égorgeurs.
En ce qui concerne le départ de la MONUSCO, certains trouvent cette démarche une manipulation en faveur de l'ennemi. Gratien Irachan.
Que nous soyons vraiment prudents pour demander le départ précipité de la MONUSCO. Il ne faut pas que nous puissions tomber dans ces pièges pour ne pas servir le cynisme et les intérêts inavoués de ceux qui ont pris notre pays en otage. Du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il donne d'urgence à la MONUSCO les moyens de son action.
Le gouverneur du Sud Kivu appelle la population de sa province au calme. Théo Kassi, qui a rencontré le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu hier, estime que s'attaquer au bien de la mission onusienne dans la situation actuelle, c'est se tromper de cible, car la MONUSCO reste le partenaire privilégié dans la stabilisation de toute la partie est de la RDC. Le gouverneur faisait ici allusion à la manifestation organisée hier même par un groupe d'étudiants pour dénoncer la situation sécuritaire préoccupante à Beni et à Minembwe. Les propos de Théo Kassi, recueillis par Alain Kikunda.
Je suis depuis 6 mois, depuis mon élection à la tête de cette province, nous faisons face aux problèmes sécuritaires et nous avons un partenaire important qui est la MONUSCO Sud Kivu. Donc il était tout à fait normal de venir voir les installations de la MONUSCO, échanger aussi avec les responsables de la MONUSCO, connaître les collaborateurs et le personnel qui œuvrent chaque jour en partenariat avec le gouvernement provincial dans la recherche de la paix dans notre province. Ce matin, j'ai reçu le collège des étudiants, une forte mobilisation des étudiants qui sont venus disciplinés dans la paix. Ils sont venus me remettre un mémo. Ils veulent au fait une chose, ils veulent que la paix revienne non seulement au Sud Kivu, mais aussi au Nord Kivu. Mais j'ai aussi remarqué dans leur mémo, il n'y a pas un mot contre la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas stigmatisée et ça, à rendre hommage à ces jeunes, il ne faut pas qu'ils se trompent d'adversaire. L'adversaire pour nous aujourd'hui, ce sont l'activisme des groupes armés, ce sont les seigneurs de guerre, ce sont les personnes aussi qui manipulent, qui veulent créer la haine entre les communautés. C'est ça, pas la MONUSCO, pas le gouvernement.
Le gouverneur du Congo central a été destitué par une motion de défiance examinée et votée par l'ensemble des 24 députés présents hier à l'hôtel Bololo dans la ville de Matadi. C'est ici que la plénière a été délocalisée suite aux incidents qui ont émaillé celle tenue plus tôt le même jour. Pour le député provincial Lamassoumbou Baya, initiateur de la dite motion, Atumatu Bwana et son adjoint ont 48 heures pour déposer leur démission au chef de l'État. Il accuse par ailleurs Atumatu Bwana d'être l'instigateur du désordre qui a eu lieu hier à l'Assemblée provinciale. Des précisions avec Nana plus riche Mambou.
Les 24 députés provinciaux qui ont destitué les gouverneurs estiment qu'ils ont droit de délocaliser la plénière à un hôtel d'après les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Selon l'initiateur de la motion, le gouverneur Atumatu Bwana et ses partisans ont été à la base des incidents d'hier lors de la première plénière.
Les collègues députés de son camp, ils ont cassé le bureau du président. Donc Atumatu Bwana a donné de l'argent à tous les services de l'État ici pour que l'Assemblée ne soit pas protégée. Dans quel pays sommes-nous? Quelqu'un qui est accusé pour un problème de mimi-guette et il donne la corruption à tout le monde.
Les 17 députés, dont 3 membres du bureau qui attendaient le redémarrage de la séance suspendue pour 4 minutes par les présidents, se disent surpris de la délocalisation de la plénière à l'hôtel sans qu'ils ne soient informés. Dans une déclaration faite hier soir et lue par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, ces derniers fustigent le comportement d'Anatole Matoussi, la présidente de l'Assemblée provinciale. Pour eux, le vote visant la déchéance du gouverneur Matou Bwana ne sera pas pris en compte.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir, son bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement les travaux de l'Assemblée provinciale. Étant donné que le bureau ne s'est pas réuni pour la délocalisation des activités de l'Assemblée, la décision prise par le président est nulle et non avenue.
Pour l'heure, les députés qui ont destitué Atumatu Bwana sont en train de préparer un procès verbal destiné aux autorités du pouvoir central. Matadi, Nana Plirish Mambou, Radio Okapi.
Le 5 décembre de chaque année, la RDC célèbre la Journée nationale de l'arbre. Cette année, le thème retenu est « Un Congolais, un arbre pour préserver notre planète ». Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Onyamugabo, invite à cette occasion chaque citoyen congolais à planter un arbre pour sauver la planète des effets néfastes des changements climatiques. Pour le ministre, planter un arbre reste une question naturelle d'éthique. Nounoungoy nous en dit plus.
Partout où l'arbre a disparu, l'homme a été puni pour cette négligence. Il est de notre responsabilité de transmettre aux générations futures cette culture de planter des arbres, a prévenu Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et Développement Durable, qui invite tous les Congolais à s'approprier la vision environnementale du chef de l'État à travers son projet ambitieux de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Ce projet de reboisement vise à toucher tous les Congolais et surtout à créer des espaces verts dans les zones d'habitation. Le ministre de l'Environnement a également demandé à la population de s'approprier dès aujourd'hui du slogan « Je suis Congolais, je plante des arbres » pour soutenir l'initiative du président de la République. Sachez que les arbres jouent un rôle très important dans l'environnement. Ils génèrent de l'air frais dont l'homme a besoin pour sa respiration. Les arbres soutiennent le sol en cas d'érosion ou de glissement de terrain. Les arbres nous protègent également contre les rayons solaires.
En Ituri, un service minimum pour la prise en charge des malades d'Ebola est opérationnel depuis hier au centre de traitement de Biakato, territoire de Mombasa. Une équipe d'ONG, agence du système des Nations Unies engagée dans la lutte contre Ebola, s'est rendue sur place à Biakato par hélicoptère. Selon le bureau de coordination des Nations Unies pour la riposte en Ituri, c'est pour la relance des activités de lutte contre cette épidémie après environ une semaine de suspension suite à l'insécurité. Isaac Meopé.
Des sources locales renseignent que le centre de traitement de Biakato reçoit depuis hier les cas positifs d'Ebola qui sont enregistrés dans la zone. C'est grâce au concours du personnel médical local. Ces prestataires de santé ont été instruits par une délégation du ministère de la Santé et des agences du système des Nations Unies à reprendre les activités. C'était au cours de la mission effectuée mercredi sur place par hélicoptère. D'autres agents des ONG et agences du système des Nations Unies seront déployés progressivement pour l'intensification des activités de riposte, affirment les bureau des ERC en Ituri. Pour l'instant, les partenaires sont en train d'étudier les modalités pratiques pour la reprise effective des activités de riposte dans la zone. Cette décision de redéploiement de l'équipe de riposte est saluée par les différentes couches sociales qui déploraient la propagation de la maladie dans la zone. Elles affirment que 8 personnes membres d'une même famille sont mortes d'Ebola depuis vendredi à Luemba à 18 km de Biakato. Des cas suspects dont certains sont déjà référés au centre de traitement se sont également multipliés pendant la suspension d'activités des ripostes dans la zone. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Kivu, l'équipe des ripostes contre Ebola redoute la propagation de la maladie dans les zones affectées par les récents événements sécuritaires dans les territoires de Beni. Le coordonnateur en charge des opérations de l'OMS en réponse contre la maladie à virus Ebola lance à cet effet un appel tant aux autorités congolaises qu'à celles du système des Nations Unies pour qu'un système de sécurité costaud soit assuré aux équipes de la riposte dans les zones touchées par l'épidémie. Docteur Michel Diao au micro du Kapelo Aminia.
Ces derniers temps, les incidents d'insécurité ont touché plusieurs zones. Vous savez, à Mangina, l'équipe de l'OMS est sortie de cette zone. Donc, toutes ces choses-là ont un impact non seulement sur des aspects de surveillance, mais de suivi de contact. Et là où nous sommes plus affectés, c'est notamment dans la sous-coordination de Biakato, où toute l'équipe a dû évacuer. Aussi, le partenaire qui avait en charge le centre de traitement a dû quitter. Depuis les événements, hier, nous avions eu 5 cas liés à des cas qui viennent de la zone où les attaques ont eu lieu. La plupart des cas venaient de la sous-coordination de Biakato, y compris Luemba. Cela nous fait croire que la maladie est probablement en train de se propager dans cette zone que nous avons quittée, malheureusement, due à l'insécurité. Et donc, nous lançons un appel pour que cette sécurité soit assurée. Un système de sécurité robuste puisse rassurer les acteurs, les gens ont peur.
Actualité internationale.
Un bateau de migrants a fait naufrage au large de la Mauritanie, transporté environ 150 personnes. 58 corps ont été récupérés pour le moment et 85 survivants ont pu être secourus. En France, le mouvement de grève générale a été massivement suivi. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans la rue partout dans le pays pour dire non au projet du gouvernement de réformer les retraites.
L'invité.
Le collectif des femmes journalistes de Boutembo affirme son engagement dans l'accompagnement des guéris et toutes les autres personnes affectées par Ebola après l'épidémie. D'après Rose Touombéane, sa directrice et survivante mérite beaucoup d'attention. Elle nous en parle dans cet entretien avec Sadiq Aboubakar.
Madame Rose Touombéane, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des activités que vous menez en matière de la promotion des droits de la femme, mais aussi actuellement dans le contexte Ebola. Vous avez aussi mené quelques activités en matière de lutte ou de la protection de la femme contre cette épidémie.
Bien sûr, nous avons contribué largement dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Et d'abord, pas de sensibilisation, parce que vous le savez, et tout au début, il y a eu une grande résistance de la part de la population qui ne voulait pas consommer les services de l'équipe des ripostes, mais on a contribué à notre niveau pour conscientiser la population d'une manière générale, mais beaucoup plus les femmes, parce que les femmes ont été les premières victimes. Sur 100 personnes mortes, il y a eu 82 femmes, parce que avec nos sondages que nous avons menés, la résistance était aussi beaucoup plus chez la femme. Vous le savez, la femme donne la vie. Il y a eu des rumeurs qui disaient que la maladie n'existait pas, mais c'était un plan d'extermination. Donc, pour sauvegarder cette vie qu'elle donne, il fallait s'opposer parce qu'elle n'avait pas encore compris.
Alors, vous avez mené des séances de sensibilisation.
Nous avons mené des séances de sensibilisation, mais peu après, nous avons aussi lancé dans les activités des sondages, d'écouter les avis de la population et remonter les feedbacks à travers les organisations partenaires pour que la coordination de la riposte puisse y travailler.
Vous avez un instrument de communication, une radio, donc c'est collectif des femmes journalistes. Comment vous l'utilisez aussi en matière de lutte contre Ebola?
Depuis qu'Ebola est là, la radio travaille, contribue largement. Il y a des spots éducatifs, il y a des émissions montées et réalisées par une équipe déjà mise à place par l'équipe des ripostes qui sont en train d'être diffusées même jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi organisé les animateurs des émissions de notre radio d'essayer de contribuer à leur niveau aussi parce qu'ils ont aussi leurs propres auditeurs, vous le savez. Et donc la radio a contribué jusqu'à aujourd'hui, continue à contribuer pour que la maladie soit effectivement éradiquée. Et la radio va encore s'impliquer largement pour que la période après Ebola soit paisible et que les gens puissent cohabiter en paix.
Comment comptez-vous contribuer à la survie de toutes les victimes d'Ebola? Il y a les orphelins, il y a vainqueurs d'Ebola après l'épidémie.
Depuis que nous sommes en train de travailler dans l'éradication, nous avons visité des sites et nous avons constaté qu'il y a un grand problème pour les orphelins de la maladie à virus Ebola. Nous allons intervenir pour essayer de les encadrer et même de passer à l'éducation des familles qui les encadrent afin de travailler aussi sur leur psychologie. Nous allons aussi travailler avec les personnes vainqueurs d'Ebola pour que ces personnes-ci ne constituent pas un danger, mais qu'elles soient des modèles, des témoignages pour montrer à la communauté que la maladie a existé, mais il faut que nous continuions à pratiquer les normes d'hygiène afin que la maladie ne revienne. Car ces personnes ont vécu, ont senti la maladie, la douleur et tout comme ça, ils peuvent faire des bons témoignages. Nous allons les encadrer et pour non seulement l'éducation de la communauté, mais aussi pour la protection de celle-ci à travers une sexualité responsable, étant donné qu'ils peuvent être encore dangereux même.
Voilà. Oui, effectivement, avant cette interview, vous nous avez dit que la femme continue à être vulnérable ou victime d'Ebola, même après l'épidémie. Comment vous expliquez ça?
C'est très normal parce que les guéris, s'ils sont des hommes, la femme est à côté et donc elles sont très exposées avec leur mari et qui sont des guéris mais qui sont encore porteurs de virus, selon les médecins qui expliquent. Et aussi, cette femme-là qui a peut-être son mari qui n'a pas encore compris, et donc la femme est exposée doublement. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à ces guéris-là pour qu'ils ne constituent pas encore un danger permanent pour la femme et donc pour la famille, parce que quand la femme est malade, c'est encore toute la famille qui est en danger.
Et comment comptez-vous aider ces femmes de cette catégorie, par exemple épouses d'un guéri et qui sont censées continuer à vivre leur vie de foyer normalement en dépit du fait que le mari pourrait encore garder des germes de virus dans ses spermatozoïdes?
Nous allons les aider par l'éducation et nous allons organiser des visites familiales pour que ces femmes-là puissent comprendre finalement qu'elles doivent aussi faire certaines pratiques qu'elles ne faisaient pas avant la maladie de chez leur mari. Et donc,
comme quoi?
Comme par exemple, carrément une prévention ou carrément le choix de l'usage des préservatifs pour que la maladie ne soit pas transférée à la femme.
Est-ce que vous avez un appui quelque part pour vous aider à toutes ces activités?
Non, jusque-là, on n'a pas un appui, sauf qu'on est en train de chercher les partenaires qui peuvent nous appuyer, surtout des partenaires qui sont intéressés par la cause de la femme et qui sont préoccupés par la cause de la femme, parce que la maladie Ebola, elle est là, et la période après maladie, ça sera toujours un lourd fardeau sur la femme.
Madame Rose Tombiane, merci.
Et c'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à vous qui avez suivi ce journal.